RFI, 22h à Paris, 21h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. La Zimbabwéenne Kirsty Coventry est élue à la tête du Comité international olympique. Une femme, c'est une première. Et la médaillée olympique de natation a été élue dès le premier tour. Oubliez les favoris et les outsiders, nous dira Eric Mammouth. Greenpeace condamné à verser 665 millions de dollars à une entreprise américaine. Des dommages et intérêts pour l'exploitant d'un oléoduc auquel l'ONG s'était opposée. L'existence de Greenpeace est-elle menacée? Nous verrons cela avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement. Et puis mieux vaut tard que jamais, le Sénat français adopte une loi pour réhabiliter les femmes condamnées pour avoir avorté illégalement avant la dépénalisation de l'IVG en 1975. Une loi qui arrive donc 50 ans après le vote de la loi Veil. Une grande première pour le CIO. Le Comité international olympique sera désormais dirigé par une femme. La Zimbabwéenne Kirsty Coventry a été élue à la tête de l'institution tout à l'heure à Costa Navarino en Grèce, en remplacement de l'Allemand Thomas Barr. Eric Mammouth, bonsoir. L'ancienne nageuse double championne olympique a donc été élue et en plus haut la main à la surprise générale.
Oui, un vrai plébiscite pour Kirsty Coventry, élue présidente dès le premier tour de scrutin avec la majorité absolue des suffrages, soit 49 voix sur 97 votants. L'Espagnol Juan Antonio Samaranch Jr. a lui hérité de 28 suffrages contre 8 seulement à l'ancien athlète britannique et président de la Fédération internationale d'athlétisme Sébastien Coe. Encore moins pour les 4 autres candidats, parmi lesquels le français David appartient, qui a recueilli 4 petites voix. Une vague Coventry favorisée sans doute par le soutien de Thomas Barr, même s'il s'en défend publiquement. Le désormais ex-président du CIO a bien appuyé officieusement la candidature de la Zimbabwéenne. C'est lui en tout cas qui l'avait intégré à la commission exécutive du CIO en 2018. Kirsty Coventry entrée au CIO 5 ans plus tôt à la commission des athlètes, alors qu'elle était encore nageuse. Ce n'est qu'en 2016, forte de 7 médailles olympiques décrochées sur 100 et 200 mètres d'eau, qu'elle a raccroché le bonnet de main pour embrasser par la suite une carrière également politique. Elle est ainsi, depuis 2019, ministre des Sports, des Arts et de la Jeunesse du Zimbabwe. En désignant à sa tête une femme, de surcroît une jeune femme de 41 ans et pour la première fois également une africaine, le CIO prend résolument le virage de la modernité. Ses premières décisions seront très attendues et ce dès les prochains Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu en février 2026 à Milan.
C'est noté, merci Eric Mammouth. Ce jeudi, les chefs d'état-major d'une trentaine de pays étaient à Londres. Sur la table, un plan de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Un plan qui, selon le Premier ministre britannique, prend forme. La nuit dernière encore, les deux pays ont procédé à des attaques massives de drones. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a appelé l'Europe à rester ferme face à Vladimir Poutine avant la rencontre russo-américaine de ce lundi en Arabie Saoudite. Dans un message vidéo diffusé à Bruxelles, devant les dirigeants européens réunis en sommet, le président ukrainien a démenti tout accord avec Donald Trump sur les centrales nucléaires. Hier, la Maison-Blanche avait suggéré que les États-Unis pourraient prendre possession des centrales ukrainiennes dans le cadre des efforts de Washington pour mettre fin à l'invasion russe.
Nous n'avons absolument pas discuté de la question de la propriété des centrales nucléaires avec le président Trump. D'ailleurs, nous n'avons pas discuté des messages dont vous parlez maintenant. Nous ne discuterons pas de la production en Ukraine dans son ensemble. Nous avons une centrale nucléaire en activité, 15 réacteurs aujourd'hui, et tout cela appartient à notre État. Nous sommes connectés au réseau européen, et pour nous, c'est une garantie sérieuse de sécurité énergétique.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le Hamas annonce avoir tiré des roquettes sur Tel Aviv. C'est la première riposte du mouvement islamiste palestinien depuis la reprise des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Des frappes qui ont fait, selon la défense civile de la bande de Gaza, 504 morts. Ce matin, l'armée israélienne a interdit toute circulation sur le principal axe routier qui traverse la bande du nord au sud. Hier, elle avait annoncé des opérations terrestres ciblées. Des opérations qu'elle dit ce soir étendre à la ville de Rafah. 665 millions de dollars, c'est la somme que Greenpeace est condamné à verser aux États-Unis au groupe Energy Transfer. L'ONG a été condamnée à verser ses dommages et intérêts après des manifestations qui se sont déroulées dans le Dakota du Nord en 2016 et 2017 pour protester contre la construction du tronçon d'un oléoduc. Un oléoduc accusé de traverser des sites sacrés de la tribu autochtone des Sioux et de menacer leurs sources d'eau potable. Alors, cette décision de la justice américaine menace-t-elle l'existence de Greenpeace? La réponse de Michael Forst, rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement.
Alors il est peut-être un peu tôt pour dire que l'existence de Greenpeace est menacée. En tout cas, c'est certain que c'est un coup fort porté contre l'organisation, qui est victime de même procès bâillon dans plusieurs pays, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, maintenant aux États-Unis. Et c'est vrai que le montant des dommages et intérêts prononcés par le tribunal du Dakota est vraiment très très important, et ça risque de mettre en péril, non pas de manière définitive, en tout cas de manière provisoire, les ressources financières de l'organisation. En fait, le risque que je vois immédiatement et qui a été pointé par les observateurs, c'est le fait que c'est un succès pour l'entreprise américaine qui risque également d'encourager d'autres entreprises, petites, moyennes ou grandes, à utiliser les mêmes procès pour faire taire les journalistes d'investigation et les petites organisations gouvernementales qui luttent contre des projets locaux qui parfois sont des petits projets mais qui menacent la survie d'une communauté, d'un peuple autochtone et qui sont effectivement extrêmement importants.
Et les associations de défense de l'environnement et des droits humains parlent d'un détournement du système judiciaire au moment où le monde lutte face à une crise climatique existentielle. Greenpeace compte faire appel. 10 ans de prison ferme contre Boualem Sansal, c'est la peine requise ce jeudi par un tribunal près d'Alger contre l'écrivain franco-algérien, emprisonné depuis le 16 novembre dernier. Boualem Sansal, 80 ans, est connu pour ses critiques du pouvoir algérien. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. L'affaire Sansal a aggravé encore plus des relations franco-algériennes déjà fragiles. Olivier Gondeau, lui, est libre. Le Français était retenu en Iran, il avait été arrêté en octobre 2022 et on a appris ce matin qu'il avait regagné la France lundi soir. Olivier Gondeau, 34 ans, avait été condamné à 5 ans de prison pour espionnage. Et si l'annonce de son retour en France a été faite avec du retard, c'est qu'un autre Français était retenu en Iran depuis 4 mois, mais il a pu quitter le territoire hier soir. Aucun ressortissant, aucun touriste français n'est en sécurité en Iran à ce jour, a insisté le ministère français des Affaires étrangères. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a indiqué que les portraits des deux Français encore enfermés en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris, allaient être accrochés aux grilles de l'Assemblée nationale. Ce jeudi, le Sénat français a adopté à l'unanimité une loi pour réhabiliter les femmes condamnées pour avoir avorté illégalement avant la dépénalisation de l'IVG en 1975. Une loi qui arrive 50 ans après le vote de la loi Veil, qui dépénalisait donc l'interruption volontaire de grossesse. La proposition vient du groupe socialiste, portée par l'ancienne ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, qui explique « C'est une façon de dire que la honte doit changer de camp, que les lois qui avaient cours avant 1975 étaient criminelles ». Et elle insiste « Alors que la défense du droit à l'avortement est remise en cause dans le monde, il faut dire au monde entier qu'il y a des pays qui ne plient pas ». RFI, 22h08, à Stockholm, en Suède, où les prix alimentaires augmentent beaucoup. Pour protester, un boycott a été mis en place cette semaine contre les 3 grandes chaînes de supermarchés du pays, ICA, Coop et Axe Food. À Stockholm, Ottilia Ferret a rencontré l'instigatrice de ce mouvement, ainsi que des clients qui ont du mal à joindre les deux bouts.
Entre janvier et février de cette année, donc en un mois, les prix ont augmenté de presque 2%. Pour Annika, c'en était trop. Le 14 février, elle a donc lancé un appel au boycott des grands supermarchés suédois sur TikTok et des milliers de personnes ont répondu présent.
Moi, j'achète du café en grains. Il coûtait 17 euros il y a 3 mois et maintenant, il coûte presque 23 euros. La purée de tomates, c'est une denrée très basique et ça a augmenté de 100%.
Au magasin Ika, le gérant indique que les prix s'expliquent par l'inflation, la guerre en Ukraine et des coûts de production plus élevés. Alors si certes les prix ont augmenté un peu partout en Europe, les clients suédois pointent du doigt le monopole de 3 grandes enseignes.
Quand on a 90% du marché, on n'a pas vraiment de concurrence. Ils ont augmenté les prix au-delà de l'inflation pour faire plus de bénéfices. L'État, lui, ne fait rien du tout. Il pourrait abaisser la TVA, par exemple.
Beaucoup de Suédois se sont désormais tournés vers d'autres supermarchés moins chers. C'est le cas de Anders, retraité, qui compare soigneusement le prix des fromages, ou de Nina qui fait le stock de clémentines.
Il faut vraiment chercher. Par contre, le café, je peux plus en acheter.
C'est difficile. Moi, j'ai beaucoup marché pour pouvoir venir faire mes courses à Lidl. Mais dans beaucoup de régions, ils n'ont pas le choix. Tout ce qu'ils ont, c'est ICA.
Il est prévu que ce boycott se prolonge et des manifestations ont aussi été ajoutées au programme. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Et puis en France, plus de 20 jeunes migrants qui avaient participé à l'occupation de la salle de la Gaîté Lyrique, évacuée mardi par les forces de l'ordre, font l'objet d'une obligation de quitter le territoire, selon le collectif des jeunes du parc de Belleville. La police a modifié l'âge des jeunes pour les placer sous OQTF, a déploré le délégué de ce collectif. RFI, 22h10 à Paris.